présence, 15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Nous recevons aujourd'hui dans cette émission Lucile Montassier. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bienvenue dans cette émission pour témoigner de votre parcours, pour nous parler également de votre amour pour Lourdes et sans doute nous dire comment la foi vous a sauvé, même au plus profond, dans les plus grandes difficultés que vous avez vécues. Nous aborderons aussi avec vous tout ce qui est fait au sein de la Vigne de Rachel, qui est une association qui aide à guérir la souffrance de l'avortement.
Oui.
Alors vous, Lucile Montassier, on peut dire que Vous revenez de loin quand même.
Oui.
Que s'est-il passé en octobre 1988 qui va conduire à vous faire basculer dans non seulement de la dépression, mais dans de très grandes souffrances?
Eh bien, si vous voulez, j'ai fait un avortement suite à un grave harcèlement moral dans le monde du travail de 1983 à 1987, où ça a été vraiment terrible.
Donc vous êtes enceinte en 88 et là vous faites ce choix en octobre 88 d'avorter.
Exactement, dans la précipitation.
C'est-à-dire, on vous pousse à cela ou vous n'avez pas le temps de vous poser les bonnes questions?
C'est surtout ça, j'ai pas le temps de me poser les bonnes questions et je refuse et je le regretterai toute ma vie de participer à l'entretien pré-IVG qui aidait les femmes en fait qui étaient dans la détresse, où une femme pouvait être entendue. C'était un moment unique qu'elle avait de pouvoir parler de sa souffrance. Et j'ai agi dans la précipitation et sans réfléchir, sans savoir que j'avais un petit être qui vivait en moi.
Et finalement, est-ce que immédiatement, à partir du moment où vous subissez cet avortement, vous avez conscience que vous avez commis sans doute là un acte qui va vous faire basculer dans la folie d'une certaine façon?
Non, je vais en avoir conscience quand je sortirai de l'hôpital psychiatrique, quand j'en aurai bien bavé. Et Jean-Paul II aura des paroles, si vous voulez, pour les femmes qui ont avorté, où je me dirai, mais il a raison, comme il touche du doigt ce que je suis en train de vivre, je sors de l'hôpital psychiatrique et je suis enfin prête à comprendre tout ce qu'il dit sur les femmes qui ont avorté.
Pour reprendre le fil de cette histoire, une histoire qui donc est aussi, disons, une histoire de foi, on va le voir.
Oui.
Donc vous avortez, nous sommes en octobre 88, et à partir de quel moment on vous mène à l'hôpital psychiatrique? Que se passe-t-il?
Et c'est au moment où le bébé aurait dû naître, qui est symboliquement la date anniversaire de la naissance du bébé, où j'ai été prise, comment dire, de, je sais pas si c'est le mot, hystérie, de crise d'angoisse, de névrose que je maîtrisais plus, que je ne contrôlais plus, de pulsions morbides. Et là, il a fallu qu'on appelle les pompiers et qu'on m'emmène à l'hôpital. Ça a débouché ensuite sur l'hôpital psychiatrique.
Mais est-ce que brille en vous encore à cette époque-là une petite lumière d'espérance ou la foi, où en êtes-vous par rapport à elle à ce moment-là?
Je vais vous dire, j'étais plus que paumée puisque je venais de perdre ma maman dans des conditions tragiques où je subissais un harcèlement terrible à ce moment-là. Donc j'étais complètement à l'ouest, à côté de mes pompes, complètement déconnectée de la réalité. Je n'étais plus capable de travailler.
Et la foi, je réitère ma question, vous étiez croyante?
Oui, oui, j'avais beaucoup la foi et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai rencontré des gens merveilleux et c'est par la foi que je me suis sauvée en venant entre autres à Lourdes.
Nous sommes en 89, là vous êtes internée, vous êtes à l'hôpital psychiatrique.
Oui.
Vous n'avez qu'une obsession, c'est d'en sortir.
Oui, tout à fait, me sortir de la griffe du médecin fou qui m'a mise dans l'état d'un drogué en manque où j'ai dû réapprendre à lire, à écrire et à compter pendant plusieurs années. Et ça a été très long en fait, ça m'a demandé 25 ans pour m'en sortir.
Aujourd'hui vous travaillez?
Oui.
Bon, on ne va pas dire quel métier vous exercez. Vous avez un travail qui vous plaît, vous avez le sentiment d'être sorti de toutes ces souffrances,
mais
toutes ces difficultés?
À quel prix?
Vous avez associé assez tôt votre souffrance ou cette descente aux enfers à cet acte de l'avortement?
Oui.
À partir de quand prenez-vous conscience qu'il y a un lien entre ce que vous vivez et cet acte d'octobre 88?
Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer des associations merveilleuses comme Mère de Miséricorde, qui a été fondée sur les recommandations de Marthe Robin de Châteauneuf-de-Gallo, parce qu'elle avait entendu beaucoup de femmes qui ont avorté. Ensuite, Agapa, où le professeur Ney disait que l'avortement est l'aboutissement d'une longue chaîne de déshumanisation. Et enfin, de la vigne de Rachel, qui est guérie la souffrance de l'avortement, de l'IMG, de la fausse couche, de la FIV, de la grossesse extra-utérine et de la mort précoce du nourrisson ou du deuil périnatal.
Nous aurons l'occasion de revenir sur l'activité en particulier de la vigne de Rachel, qui est une association à laquelle vous-même aujourd'hui vous participez comme bénévole et qui vous a rendu ce service de vous guérir de cette souffrance liée à l'avortement. Revenons à justement le rapport que la société, notre société a à l'avortement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on minimise la gravité de l'acte qui est posé?
Non seulement on minimise, mais une femme qui a avorté n'a pas le droit de se plaindre. La souffrance est une souffrance interdite, comme dit si justement Teresa Burke. Donc la souffrance n'est pas reconnue.
Donc vous vous dites que finalement, on a mis comme une chape de plomb sur le témoignage des femmes après l'avortement.
Tout à fait.
Comme si ça n'était qu'un acte médical banal.
Comme si c'était un kyste ou une dent, comme si c'était quelque chose de banal. Or, l'avortement n'est pas un geste banal.
Vous-même, vous avez vécu cette pression à titre personnel, en ayant le sentiment que vous ne pouviez pas dire aussi aisément et aussi librement que vous le souhaitiez ce que vous aviez vécu, ou bien...
Plus que ça, parce que pendant des années, on a tellement honte de ce qu'on a fait qu'on est incapable d'en parler autour de nous. Il a fallu que je me fasse aider par les associations dont on a parlé pour pouvoir enfin oser en parler. Donc vous voyez, c'est une souffrance dont on ne peut même pas parler.
Dans votre entourage aussi, on peut pas en parler. Vous sentez qu'il y a une chape de plomb?
Si, maintenant j'en parle volontiers.
Mais à cette époque-là, non.
Ah, pas du tout.
Même votre compagnon a longtemps ignoré.
Voilà.
Et comment vous expliquez ce silence? Ce silence autour de cet acte, il faut cacher, on en a honte?
Eh bien, je vais vous dire que en thérapie, on m'a dit que en fait, le démon fait en sorte que cette souffrance soit bien cachée. Et je crois que c'est bien vrai. La femme souffre en silence, elle n'ose pas se plaindre. Et les médias minimisent. Et il n'y a pas si longtemps que ça que ces associations existent. En fait, on commence un petit peu à les connaître. Elles font un superbe travail. Et c'est magnifique ce qu'elles font. Et il faut les aider.
Donc vous avez vécu cette descente aux enfers, hein,
oui.
Quelque sorte. Comment vous réussissez à reprendre pied dans le monde professionnel, dans le monde du travail, dans la vraie vie?
Ça a été fait au prix d'efforts surhumains, en fait. J'avais envie de m'en sortir, j'avais un choix à faire. Ou je m'en sortais, ou je retournais définitivement à l'hôpital psychiatrique, et j'ai décidé de m'en sortir. Mais à quel prix?
Alors pourquoi vous dites à quel prix? Parce que ça
a
nécessité beaucoup d'efforts.
Par des rechutes, par des descentes aux enfers. Ça a été des hauts, des bas, en dents de scie. Et beaucoup, beaucoup de personnes m'ont aidé. Et même encore aujourd'hui, je dis merci à des personnes qui m'ont aidé à m'en sortir.
Une personne qui en particulier vous a permis de trouver un travail dans la fonction publique, on va dire.
Tout à fait, voilà.
Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Ben, ça s'est passé à la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris, à la rue du Bac, quand j'allais prier. J'avais une amie, Eliane, qui travaillait dans la fonction publique, qui recherchait des personnes pour faire du secrétariat. Et comme je tapais très bien à la machine, on m'a recrutée là-dessus et ça m'a sauvé la vie.
Et à cette époque, à ce moment-là, vous êtes dans la grande difficulté puisque vous n'avez pas de travail, vous êtes au chômage. Vous cherchez du travail à ce moment-là. Et c'est à la médaille miraculeuse que vous trouvez l'opportunité.
Dans la chapelle de la médaille miraculeuse, oui. Parce que je pense que dans l'état où j'étais, aucun patron ne m'aurait pris. Ma sœur Bernadette et son compagnon Jacques m'ont quand même pris un an avec eux pour me remettre dans le monde du travail juste avant que je trouve cet emploi. Je tiens à les remercier, à les saluer ici parce qu'ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais ils m'ont permis de me sortir d'affaires.
Vous avez donc eu une carrière dans la fonction publique, on ne va pas rentrer dans le détail.
Oui, tout à fait.
qui vous a aussi consolidé dans,
oui, absolument,
dans le choix de la vie.
Absolument.
Face aux ténèbres.
Oui, 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 oui.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez de toute cette expérience qu'on qualifiera de douloureuse quand même,
oui,
même si vous portez un sourire sur votre visage qui montre que vous en êtes sorti de tout cela?
Oui, eh bien je veux mettre mon expérience au service de celles qui ont avorté, qui ne vont pas bien, celles qui sont les femmes enceintes, qui ne connaissent pas ces bonnes associations au moment où elles en auraient besoin. Et donc il faut soutenir ces femmes, faire connaître ces associations.
C'est la raison pour laquelle vous avez frappé à la porte de cette radio et vous êtes venu me dire « Connaissez-vous la vigne de Rachel ?»
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, vous êtes un peu en mission, quelque part.
Tout à fait. Je venais pour une intention de prière, pour voir comment, où est-ce qu'il fallait pour que ce soit diffusé sur la radio. Puis de fil en aiguille, on a parlé, voilà comment on est venu à parler de la vigne de Rachel.
Alors, Lucile Montassier, nous marquons une pause dans cette émission. Juste après cette pause, je propose que nous parlions de nouveau avec vous de cette vigne de Rachel, de cette association La Vigne de Rachel, pour comprendre ce qui s'y vit et ce qu'elle propose.
D'accord.
Et puis, si vous permettez, je vous poserai quelques questions sur Lourdes.
D'accord.
Hein, sur votre rapport à ce lieu un
oui.
peu à part, tout de même.
Tout à fait.
À tout de suite.
Présence. 5 radios, un seul nom. Présence, la radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin. De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui, c'est vous, Lucile Montassier. Vous nous partagez votre témoignage qui, nous l'avons déjà dit, hein, est relativement douloureux et difficile à entendre. C'est l'histoire d'une femme qui avorte en 1988 et qui ne se rend pas compte à ce moment-là que cet acte qui vient d'être posé va être un acte qui va la mener dans une très très grande difficulté.
Une spirale infernale.
Une spirale infernale jusqu'à l'hôpital psychiatrique.
Voilà. J'ai mis la main dans un engrenage où on n'en sort pas indemne, où ça bousille une vie complètement et j'étais pas du tout consciente de la gravité de l'acte que j'allais poser.
Aujourd'hui, vous préparez un livre, je crois,
oui.
Bon, qui paraîtra dans les mois ou années à venir.
Dans les mois à venir, j'espère, où j'explique en fait qu'est-ce qu'on fait faire dans ces associations pour les femmes qui ont avorté, qu'est-ce que j'y ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté, par exemple, écrire une lettre à son enfant avorté, quand on est en groupe de parole, en groupe de thérapie avec les femmes ou les couples qui ont avorté, toutes les femmes qui écrivent à leur bébé ou les papas se mettent à pleurer et ça n'a pas de mots. On ne peut pas exprimer avec des mots ce qui se vit quand on lit aux uns et aux autres la lettre qu'on écrit à notre enfant.
Et on se reconstruit à partir de cela.
Et quand on demande pardon à son enfant de ce qu'on a fait. Pardon d'abord à l'enfant et aussi pardon à soi-même parce que notre premier prochain, c'est d'abord nous-mêmes, c'est de nous aimer nous-mêmes.
On espère pouvoir vous lire ce livre
oui.
dans les mois à venir. La vigne de Rachel, vous êtes membre bénévole de cette association. Quelle est-elle cette association?
Alors cette association, ça se passe sur un week-end, ça offre un modèle unique du traitement du traumatisme post-avortement, dans ses dimensions émotionnelles, psychologiques et spirituelles. La vigne de Rachel est née en 1995, aux États-Unis et elle a essaimé dans plus de 82 pays et elle est proposée en France depuis 2009 à l'initiative de Monseigneur Brouvet, alors évêque auxiliaire de Nanterre et il est maintenant évêque de Tarbes et de Lourdes.
Cette vigne de Rachel est une association qui propose donc des week-ends au cours desquels on vit quoi?
Eh bien, c'est pas difficile. Déjà, on ne juge pas, on ne critique pas la femme qui est avortée. On vient y guérir la souffrance de l'avortement, de l'IMG, de la fausse couche, de la FIV, de la grossesse extra-utérine. On comprend ce qu'est le syndrome du survivant d'avortement. Et un syndrome que les femmes ne connaissent pas et qu'elles vivent, ça peut être des peurs incontrôlées, des troubles du comportement alimentaire, de la dépression, un chagrin intense, de la tristesse, de la colère, de la rage, de l'anesthésie émotionnelle, de la diminution de l'estime de soi, de l'abus d'alcool, de drogue, de flashbacks ou de cauchemars, des pensées suicidaires, la peur d'être à nouveau enceinte, la peur des femmes enceintes, l'anxiété, les crises de panique, les avortements à répétition, les grossesses non planifiées, les difficultés relationnelles et incapacité à se pardonner et à pardonner.
C'est par des exercices qu'on avance par rapport à toutes ces souffrances ?
Absolument. Ce sont des retraites qui comprennent des exercices spirituels, des échanges et des activités de groupe, le sacrement de réconciliation, un service commémoratif et une messe célébrant la résurrection. Et c'est important de dire aussi que la participation, elle est strictement confidentielle. Donc, ce qu'on entend, ce qui se dira, ce qu'on voit, on s'engage à ne pas répéter ce qui se vit, ce qui est tout à fait normal. Parce que ça permet aux gens d'exprimer ce qu'elles ont vécu en confiance.
Vous-même, à titre personnel, vous avez vécu ce genre de week-end.
Tout à fait.
Et ça vous a reconstruite.
Complètement.
Ça vous a régénéré, relancé dans la vie ?
Ah, complètement. Complètement. Il y a quelque chose, je vais lire un témoignage, parce que ce témoignage, c'est mon histoire, ça me parle, où vous pouvez aller le lire sur www.lavignederachel.net. Ça, je me retrouve dans ce témoignage. J'ai vécu 14 ans de thérapie et d'antidépresseurs. Lorsque j'ai pensé ne plus pouvoir supporter la douleur, j'ai trouvé la retraite de la vigne de Rachel. Ce week-end m'a littéralement sauvé la vie.
Ces week-ends sont accompagnés par qui exactement ?
Par 3 personnes qui sont des accompagnateurs, qui nous font faire des exercices spirituels. On a l'adoration du Saint-Sacrement, on peut se confesser avec un prêtre qui nous écoute. On explique quelles sont les circonstances qui nous ont menés à cet avortement, mais comment dire, on décortique vraiment profondément. Et puis, on va vraiment en profondeur, on va droit au but, je dirais. Je dis pas que c'est évident, mais alors ça fait un bien fou. Et puis le soir, pour faire un deuil de la maternité, le deuil du bébé avorté, on se réapproprie notre enfant. Et puis après, le lendemain, on peut dire pendant ce temps-là tout l'amour qu'on a eu à ce bébé, si vous voulez. Et ça fait un bien fou, c'est guérissant de lui demander pardon, de lui dire voilà pourquoi j'ai pas pu te garder. Après, on le rend et puis on fait un rituel funéraire où ce bébé, eh bien, il n'est plus rien. Il a eu, comment dire, je sais pas si c'est le mot sépulture, mais il est enterré dans la dignité. Il faut savoir que toutes les femmes qui avortent, tout de suite, leur premier réflexe, c'est « Où est mon enfant ?» Ça, c'est un mot que les thérapeutes entendent. « Où est passé mon enfant ? Où est-il ? » Donc ça, c'est... Et là, ça fait une guérison spectaculaire de voir qu'il a un enterrement. Le prêtre nous remet un certificat de vie. On lui donne un prénom. Et ça... C'est extraordinaire parce qu'il a vraiment existé. Il prend sa juste place au sein de la société.
Vous-même, donc, vous avez vécu ce genre de week-end pour vous reconstruire.
Tout à fait.
Pour terminer cette émission, si vous le voulez bien, nous redonnerons quelques informations pratiques tout à l'heure sur la vigne de Rachel. Pourriez-vous nous parler de Lourdes ? Peut-être que Lourdes a pu jouer d'ailleurs dans votre reconstruction son rôle. Vous y venez depuis 1991.
Oui, c'est ma marraine qui m'a fait découvrir Lourdes. Et il y a une atmosphère de paix, de bonheur, de bien-être. C'est une atmosphère d'amour, en fait. On a l'impression, je ne sais pas, peut-être que des gens vont être d'accord avec ce que je vais dire, on a l'impression de se retrouver dans l'harmonie des années 50, des années 60. On a l'impression de vivre ça à Lourdes, alors que dans notre monde actuel, tout est mécanisé, tout est informatisé, tout est déshumanisé. Donc, on se sent bien à Lourdes, on a envie d'y rester. Et j'ai eu la chance de connaître l'icône de Toulouse, de Paul Gardet de Sauce, qui exudait une huile extraordinaire. Et ça a beaucoup fait dans ma guérison. Donc vous me demandez de parler de Lourdes. Et Lourdes, pour moi, c'est l'icône de Toulouse que beaucoup de pèlerins ont connue à un moment donné.
Vous y séjournez tous les ans, une semaine ?
Oui, tout à fait.
Là, vous avez pris des vacances pour venir à Lourdes ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites pendant cette semaine à Lourdes ?
On ne s'ennuie pas à Lourdes. On va aux piscines. On va au chapelet. On voit des gens qui sont attablés. L'autre jour, qui étaient assis autour d'une table, qui discutaient, on a envie d'aller les rejoindre et d'aller spontanément parler de son vécu, de les écouter. On apprend à écouter l'autre à Lourdes. Il y a la pastorale familiale qui est merveilleuse, où des personnes qui sont en souffrance peuvent être écoutées et entendues. On leur donne de bonnes adresses à la pastorale familiale. Donc c'est vraiment très très bien.
Vous vous sentez comme chez vous ici ?
Oui, tout à fait.
Vous passez du temps à la grotte ?
Oui.
Ce lieu est quand même un lieu spécial.
Tout à fait.
C'est même pas une grotte, c'est un abri sous roche, c'est
absolument
tout simple. Les gens passent sous ce rocher, touchent ce rocher.
Absolument.
Regardent la statue de la Vierge.
Oui.
Des gestes qui semblent très simples et très populaires, comme on dit.
Tout à fait.
Ça vous rejoint, cette piété populaire ?
Absolument. Oui, cette piété populaire, c'est ça qui me plaît. C'est ça, des gens du peuple. Il y a toutes les classes sociales à Lourdes. Et en fait, c'est l'authenticité qui plaît, la vérité à Lourdes.
Quand vous revenez de Lourdes, vous pouvez en parler dans votre travail ou pas du tout ?
Il faut être prudent au travail, il faut faire attention à ce qu'on dit. S'il y a des collègues qui sont dans la spiritualité, oui, on peut en parler, mais il faut être prudent.
Surtout dans la fonction publique dans laquelle
absolument
vous êtes. Vous avez sans doute un devoir de réserve par rapport à vos convictions.
Voilà.
Alors, Lucile Montassier, on rappelle une dernière fois peut-être que la Vigne de Rachel, c'est une de ces associations qui œuvre pour guérir la souffrance de l'avortement. Et cette association a un site internet.
www.lavignederachel.net. Et là, vous allez avoir toutes les dates de tout ce qui se fait pour les prochaines sessions de la Vigne de Rachel.
lavignederachel.net. Voilà, c'est vraiment l'adresse sur laquelle il faut que vous alliez pour avoir les informations. On peut se dire, on peut vous dire bon courage pour la suite.
Merci, et je voudrais signaler qu'il y a les veillées pour la vie à Saint-Louis-d'Antin à Paris le 4e jeudi du mois, et à Lourdes tous les lundis à 12h15 le chapelet pour le respect de la vie sous le patronage de Notre-Dame de Guadeloupe, près du sanctuaire de Lourdes en fait.
Oui.
Donc ça, c'est important.
Oui, oui. Merci pour ce témoignage, pour cette rencontre, et bon courage pour la suite de votre mission. Lucile Montassier, au revoir.
Au revoir.
Présence, présence. De passage à Lourdes. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
On a cru à plusieurs reprises que le monde était fixé. Or, il n'en est rien.
Il y a quand même des nouvelles encourageantes dans le système financier.
Une étude détaillée du satellite Encelade vient d'apporter une confirmation éclatante de la présence d'un océan liquide sous la croûte de glace gelée du satellite.
Il est incontestablement un cinéaste de talent.
Musique, théâtre, exposition sont à la une de cet agenda.
Nous avons tous un défi à relever, une mission à remplir. Allons-y et jusqu'au bout.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien. Au rendez-vous de l'histoire.
Bonjour, ici Éric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers.
Au rendez-vous de l'histoire avec Éric Picard,
tous les lundis à 13h30.